Vous êtes sur RTL.
L'heure du journal de Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Elle était en garde à vue depuis la tuerie à la préfecture de police de Paris. La femme du terroriste a été relâchée hier soir.
Et toujours beaucoup de questions ce matin, 4 jours après le drame. Comment Michael Harpon, islamiste radical, a-t-il pu échapper à la surveillance de toute sa hiérarchie? On va y revenir dès le début de ce journal. L'immigration en débat à l'Assemblée nationale. Une discussion voulue par Emmanuel Macron, sans tabou, promet l'exécutif. 75 000 personnes ont défilé hier dans les rues de Paris contre la PMA pour toutes. Retour sur cette journée de mobilisation. Et puis la Ligue 1 et le sursaut de Saint-Etienne, vainqueur de Lyon 1-0 hier soir.
Il y aura 2 météos avant 6h30, Marina.
Et patience à Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques. Le soleil va chasser les nuages matinaux et s'imposer cet après-midi avec 21 degrés.
RTL Matin.
La femme de Michael Harpon a donc été relâchée hier soir.
Elle était interrogée depuis vendredi par les enquêteurs sur la radicalisation de son mari, mais aussi sur les nombreux SMS qu'elle avait échangés le matin même avec lui. Pas moins de 33 messages à caractère religieux. Et on continue de s'interroger ce matin, 4 jours après la tuerie. Comment un terroriste islamiste a-t-il pu ainsi évoluer au cœur de la police, dans l'un des lieux probablement les plus surveillés de la capitale? Pourquoi des signes qui paraissent aujourd'hui alarmants n'ont pas été davantage pris en compte? Jean-Alphonse Richard, il y a clairement eu dans ce dossier un gros loupé.
Ben oui, c'est effectivement un énorme ratage, puisque dès 2015, Michael Harpon aurait dû attirer l'attention. 4 de ses collègues s'adressent alors à leur hiérarchie pour dénoncer l'attitude ambiguë et gênante de l'informaticien qui publiquement s'est réjoui de l'attentat de Charlie Hebdo. Cette communication se fait de façon orale, les policiers ne veulent pas de procès verbal en bonne et due forme, ils n'ont pas vraiment envie de passer pour des balances, et le fait est que ces déclarations, ces paroles vont s'envoler. Aucune trace mentionnée dans le dossier administratif de Michael Harpon, qui à l'époque est déjà converti à l'islam depuis 7 ans et fréquente assidûment une mosquée qui compte dans ses rangs des salafistes. Cette simple allusion à Charlie Hebdo, relayée par plusieurs policiers, aurait normalement dû faire l'objet d'un signalement. Pourtant, aucune suite n'a été donnée à cette information, aucune vérification n'a été diligentée. Les policiers en poste à l'époque et leurs responsables seront entendus dans le cadre des enquêtes administratives.
Jean-Alphonse Richard pour RTL. Il y a eu des failles, a reconnu ce week-end Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur, qui sera interrogé demain par une délégation de députés, a fait savoir qu'il excluait de démissionner. La mort d'un jeune homme de 22 ans hier à Villiers-le-Bel, dans le quartier de la Cerisaie, alors que des policiers procédaient à une interpellation dans le secteur. L'homme, au volant d'une moto volée, roulait sur le trottoir à une vitesse élevée quand il a perdu le contrôle. Il a violemment percuté un poteau métallique dans sa chute. Les policiers ont tenté de le réanimer sans succès.
Le débat sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron débutera tout à l'heure, à 16h, à l'Assemblée nationale.
La France est-elle victime de l'attractivité de son système de santé? Quelle politique d'accueil pour notre pays? Un débat sans vote, mais avec à la clé d'éventuelles décisions de l'exécutif sur ce dossier hautement sensible et qui divise Vincent Derosier au sein même de la majorité.
Oui, cela fait des semaines que le gouvernement se démène pour étouffer les critiques et les divisions en interne. Dernière initiative en date, un livret de 25 pages concocté par Matignon et distribué à tous les parlementaires pour leur donner des chiffres, des statistiques et surtout pour leur rappeler les actions du gouvernement en matière d'immigration. Offensive aussi dans les médias, plusieurs cadres de la majorité signent une tribune pour justifier ce débat. Il faut dire que de nombreux députés ont fait part de leur malaise lorsque le président a mis sur la table le sujet droit d'asile. Les mécontents ont été reçus plusieurs fois par Christophe Castaner et par le Premier ministre Édouard Philippe. 90% d'entre eux ont été vus, confirme le ministère de l'Intérieur. Concrètement, le débat portera aujourd'hui notamment sur les prestations sociales accordées aux demandeurs d'asile et sur l'aide médicale d'État. Mais l'exécutif a pris soin de laisser carte blanche au député Aurélien Taché, l'un des plus à gauche de la majorité. Il défendra une meilleure intégration des demandeurs d'asile.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Il nous faut une Greta Thunberg des finances publiques, appel lancé hier par Éric Woerth sur le plateau du grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Quelqu'un, a expliqué le député Les Républicains, quelqu'un qui, à un moment donné, puisse incarner l'idée qu'on ne peut pas vivre au crédit des générations futures. Au même titre qu'on ne peut pas laisser une planète sale, on ne peut pas léguer des montagnes de dettes.
Premier coup de force des anti-PMA hier, ils étaient 75 000 dans les rues de Paris. On y revient dans un très court instant, à tout de suite.
RTL Matin avec Jérôme Florin.
La suite du journal de Dominique Tenza. Dominique, 7 ans après la mobilisation contre le mariage pour tous, ils étaient donc plusieurs dizaines de milliers à défiler hier contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.
74 500 personnes exactement selon un comptage du cabinet indépendant Occurrence. Les organisateurs, eux, se sont vus 600 000. Des drapeaux, des slogans, 120 cars de TGV et des militants, Thomas Dulin, venus de toute la France.
Oui, des manifestants déterminés à faire vivre leur combat contre la PMA. Étienne, venu de Grenoble, avoue avoir douté de ce nouvel élan. Il est maintenant rassuré.
On avait peur du ridicule et là, c'est vrai que ça fait plaisir à voir parce qu'on voit que c'est un mouvement qui est en train de renaître, on va dire. Parce qu'en fait, la manif pour tous mettait le doigt sur un effet domino. Tout ce qu'on disait sur la PMA arrive aujourd'hui sur la table. On sait très bien que la GPA, c'est vraiment pour demain. Donc, ça va être encore plus facile de mobiliser autour de nous quand on voit le résultat pour le premier rendez-vous qu'on nous a fixé.
Et même si deux articles clés de la loi sur la PMA ont déjà été adoptés jeudi en première lecture par l'Assemblée, cela ne décourage pas Sixte, étudiant de 20 ans.
Ça me remotive encore plus parce qu'on ne nous écoute pas et ils pensaient nous faire taire et nous démotiver. Maintenant, justement, on leur montre qu'on n'est toujours pas démotivés. Et j'ai entendu pas mal de gens qui disaient qu'ils étaient chauds pour repartir dans des manifs, même si ça coûte cher. Moi, je viens de Bourgogne du Sud. Oui, ça demande un peu d'argent, effectivement, mais j'ai toujours été engagé et je pense que je serai toujours.
Et le jeune homme le promet, il fera le déplacement pour les autres manifestations. La prochaine pourrait se dérouler le 1er décembre.
Thomas Dulin pour RTL. C'est l'un des derniers pays d'Europe où la gauche a encore le vent en poupe. Le Portugal a reconduit hier pour 4 ans le Premier ministre socialiste Antonio Costa, arrivé largement en tête devant ses adversaires.
En football, Claude Puel peut se réjouir. Le nouvel entraîneur de Saint-Etienne a remporté hier soir le derby face à Lyon.
1-0, Saint-Etienne qui reprend des couleurs, mais Lyon qui fait la grimace. Et la défaite risque d'avoir des conséquences. Hier, le patron du club, Jean-Michel Aulas, a clairement mis le directeur sportif de l'OL, Juninho, devant ses responsabilités.
C'est très compliqué, je crois que ça nous est rarement arrivé d'être dans cette situation. Juni qui a toute la responsabilité du domaine sportif depuis le début du championnat va devoir réfléchir. Pour le moment, on n'est pas dans les clous de ce que l'on espérait.
Mais est-ce que le changement d'entraîneur est une hypothèse crédible aujourd'hui à l'OL?
Je ne sais pas, il faut poser la question à Juni. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne rien faire. Donc, toutes les hypothèses sont envisageables.
Jean-Michel Aulas au micro RTL de Willy Maisonas un peu plus tôt dans la journée. Reims s'est imposé 1-0 face à Rennes, 2 partout entre Lille et Nîmes.
Les courses, elles ont lieu à Enghien-Soisy.
Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 4, l'As, le 7, le 3, le 6, le 14, le 9 et le 12. La dernière minute, c'est le 6, Dulciné du Collard. La course du Quintet est à suivre sur sixplay.fr à 13h47.
Merci beaucoup Dominique Tenza. Vous revenez à 7h aux côtés d'Yves Calvi.